Bonjour à toutes et à tous. Avec la complicité du champ de foire, la compagnie Les Lubies est encore un instant Radio Lubies. Avec son émission Ah ça ira, ça ira, l'émission qui résiste, qui prouve que tu existes, qui cherche ton bonheur partout et refuse ce monde égoïste. Dernière étape de notre voyage utopique. Un ou plusieurs cailloux ramassés sur un sentier, sur une plage, au sommet d'une montagne, sont souvent un des trésors que l'on ramène d'un voyage. En utopie, ces cailloux se nomment nouvelles techniques, nouvelles lois, nouveaux langages, nouvelle éducation, nouvelle organisation du travail, nouvelle organisation des loisirs, nouvelle relation au temps, nouvelle relation à la nature. Pour certains, ces cailloux sont des succès, mais pour d'autres, ce sont des faillites. La valeur de ces visions utopiques et contre-utopiques est avant tout ce qu'elle suscite en nous, enthousiasme ou frayeur. La bête humaine. L'assommoir. Nana. Peaubouille. Germinal. Thérèse Raquin. La somme de l'œuvre d'Émile Zola est considérable. Avec J'accuse, paru dans l'Aurore, il appartient même à l'histoire politique française. Poète naturaliste de la misère humaine, Émile Zola est une figure de la littérature engagée. Sur le passage d'un siècle à l'autre, entre 1899 et 1902, il écrit ses quatre évangiles. Fécondité, travail, vérité et justice. Il s'agit, écrit-il, de la conclusion de toute mon œuvre, un prolongement dans demain de mon amour de la force et de la santé, de la fécondation et du travail, mon besoin de vérité et de justice. Le travail, c'est l'ambition d'un homme libéré, d'un homme libre, soumis à l'unique loi du travail qui lui apporte joie et accomplissement. Le bonheur de chacun fait du bonheur de tous.
La cité nouvelle devait à chaque étape se transformer, avancer vers plus de liberté et plus d'équité, pour finir par grouper tout le peuple fraternel réconcilié dans le commun idéal, dans le royaume du ciel mis enfin sur la terre. C'était l'admirable, le victorieux spectacle que Luc avait sans cesse sous les yeux. La cité du bonheur, dont les toitures aux couleurs vives, parmi les arbres, se déroulaient devant sa fenêtre. La marche en avant que la première génération imbue des antiques erreurs, gâtée par le milieu inique, avait si douloureusement commencé au milieu de tant d'obstacles, de tant de haine encore, les générations nouvelles instruites, refaite par les écoles, par les ateliers, la poursuivait d'un pas allègre, atteignant les horizons déclarés jadis chimériques. Grâce au continuel devenir, les enfants des enfants, semblaient avoir d'autres cœurs et d'autres cerveaux, et la fraternité leur devenait facile, dans une société où le bonheur de chacun était pratiquement fait du bonheur de tous. Avec le commerce, le vol avait disparu. Avec l'argent, toutes les cupidités criminelles s'en étaient allées. L'héritage n'existait plus. Il ne naissait plus d'oisifs privilégiés. On ne s'égorgeait plus autour des testaments. À quoi bon se haïr, s'envier, chercher à s'emparer du bien d'autrui par la ruse ou par la force, puisque la fortune publique appartenait à tous ? Chacun naissant, vivant et mourant aussi fortuné que le voisin. Le crime devenait vide de sens, stupide. Tout l'appareil sauvage de répression et de châtiment, institué pour protéger le vol des quelques riches contre la révolte de l'immense foule des misérables, avait désigné comme inutiles les gendarmeries, les tribunaux, les prisons. Il fallait vivre au milieu de ce peuple ignorant l'atrocité des guerres, obéissant à l'unique loi du travail dans une solidarité faite simplement de raisons et d'intérêts personnels, bien entendu, pour comprendre à quel point les prétendues utopies du bonheur universel devenaient possibles. Avec un peuple sauvé des monstrueux mensonges religieux, instruit enfin, sachant la vérité, voulant la justice. Depuis que les passions, au lieu d'être combattues, étouffées, se trouvaient cultivées, au contraire, comme les forces mêmes de la vie, elles perdaient leur âcreté de crime. Elles devenaient des vertus sociales, des floraisons continues d'énergie individuelle. Le bonheur légitime était dans le développement, dans l'éducation des cinq sens et du sens d'amour, car tout l'homme devait jouir, se satisfaire sans hypocrisie, au plein soleil. Le long effort de l'humanité en lutte aboutissait à la libre expansion de l'individu, à une société de satisfaction complète. L'homme étant tout l'homme et vivant toute la vie. Et la cité heureuse s'était ainsi réalisée dans la religion de la vie, la religion de l'humanité, enfin libérée des dogmes, trouvant en elle-même sa raison d'être, sa fin, sa joie et sa gloire. Luc, surtout, assistait au triomphe du travail sauveur, créateur et régulateur du monde. Dès le premier jour, il avait voulu la disparition, la mort du salariat, source de misère et de souffrance, base pourrie de l'ancien édifice social qui s'écroulait de toutes parts. Il avait rêvé l'autre chose, la réorganisation du travail, le nouveau pacte qui permettait une juste répartition des richesses. Aucune autorité n'existait plus. Le nouveau pacte social se fondait uniquement sur le lien du travail nécessaire accepté par tous. Une infinité de groupes le pratiquaient, groupes du bâtiment, du vêtement, des métaux, des ouvriers industriels, des ouvriers de la terre. Le nouveau pacte social se pliait à toutes les volontés individuelles, à tous les besoins de la communauté. Rien n'arrêtait plus l'épanouissement de chacun. Le citoyen évoluait à son gré dans son devoir de travailleur, faisant partie d'autant de groupes qu'il voulait. Passait du travail de la terre au travail de l'usine, donnait ses heures au gré de ses facultés et de son désir. Et il n'y avait ainsi plus de lutte de classe, puisqu'une classe unique existait. Tout un peuple d'artisans, également riches, également heureux, de même instruction, de même éducation, sans nulle différence, ni dans le costume, ni dans le logement, ni dans les mœurs. Et c'était le travail roi. Le travail seul guide, seul maître et seul Dieu, d'une noblesse souveraine, ayant racheté l'humanité qui se mourait de mensonges et d'injustices, la rendant enfin à la vigueur, à la joie de vivre, à l'amour et à la beauté. Luc en riait d'aise, lorsqu'un souffle de la brise matinale lui apportait les rires et les chants dont la gaieté sonore montait sans cesse de sa ville. Quel bon travail, facile et délicieux! À peine quelques heures par jour, et d'une besogne de surveillance, tellement les nouvelles machines puissantes, ingénieuses, avaient fini par avoir des pieds et des mains comme les anciens esclaves. Elles soulevaient des montagnes, elles prenaient les objets les plus délicats, les façonnaient avec un soin infini. Elles marchaient, elles obéissaient, pareilles à des êtres, ignorant la souffrance, s'usant sans fatigue. Grâce à elles, l'homme achevait de conquérir la nature, d'en faire sa dépendance et son paradis. Et de quelle prodigieuse richesse elle le comblait, une abondance toujours croissante des fleurs et des fruits de la terre, un luxe de plus en plus grand des objets manufacturés, chaque citoyen regorgeant de tous les biens. Vivant en prince de ses quelques heures de travail, lui que la faim étranglait autrefois, après d'abominables corvées de 10 heures. Et quel admirable essor ce travail si réduit, d'un effort si léger, avait donné aux études des savants, aux œuvres des artistes, en ouvrant le champ de l'intelligence à tous, en libérant dans l'heure des basses et grossières besognes. Dans les laboratoires, ouverts largement aux recherches, il ne se passait pas de semaine sans qu'on fît des découvertes merveilleuses. Une mentalité se créait de jour en jour supérieure, depuis que le peuple entier était instruit dans la vérité, par les méthodes expérimentales. Et les grandes intelligences cessaient d'être l'exception rare. Les producteurs de génie se levaient en foule. La chimie révolutionnait l'alimentation. La terre aurait pu ne plus produire de blé, ni d'olivier, ni de vigne. Il serait sorti quand même des laboratoires assez de pain, d'huile et de vin pour en fournir la ville entière. En physique, en matière d'électricité surtout, les inventions continuaient à reculer les bornes du possible, donnaient aux hommes la toute-puissance des dieux, sachant tout, voyant tout, pouvant tout. Puis, c'était l'envol des artistes. La beauté élargie, accrue, devenue une floraison immense, universelle. Tous pouvaient se fleurir et se parfumer. Il n'était pas de produits modestes, d'objets d'usage courant, d'ustensiles de ménage où l'art ne s'épanouit en charmantes imaginations, dans la forme, la couleur, l'expression même. Des légions d'artistes se levaient. Il naissait un artiste en chaque ouvrier industriel. Le travail de tous les métiers n'allait plus sans la beauté innée, la beauté grande et simple de l'œuvre vécue, voulue, adaptée au service qu'elle devait rendre. C'était une extraordinaire végétation de tous les arts. L'âme de la foule battait dans toutes les âmes. Et la vie est vécue, avec toutes les passions libérées, tout l'amour donné et reçu. Il n'y a jamais eu qu'une lutte humaine, la lutte pour le bonheur, et elle est au fond de toute religion, de tout gouvernement. L'égoïsme n'est que l'effort individuel pour tirer à soi le plus de bonheur possible. Et pourquoi chaque citoyen ne mettrait-il pas son égoïsme à traiter les autres citoyens en frères? Le jour où il sera convaincu que la félicité de chacun est dans la félicité de tous. Si les intérêts se trouvaient en lutte, c'était que l'ancien pacte social les voulait différents, les opposait les uns aux autres. En faisant de la guerre la nécessité vivante, l'âme même des sociétés. Mais que le contraire soit démontré. Que le travail réorganisé répartisse justement la richesse. Que les passions libérées et agissantes aboutissent à l'unité, à l'harmonie. Et aussitôt la paix se fait. Le bonheur s'établit en un fraternel contrat de solidarité. Pourquoi se battre lorsque les intérêts ne posent plus? Depuis tant de siècles, si l'humanité avait mis à conquérir le monde, à soumettre les forces naturelles, les efforts acharnés et douloureux des générations, cette somme prodigieuse des efforts, du sang et des larmes qu'elle a dépensé à s'entre-dévorer, il y a longtemps qu'elle serait la reine indiscutée, souverainement joyeuse des êtres et des choses. Le jour où elle s'est aperçue de son imbécile démence, où l'homme n'a cessé d'être un loup pour l'homme, tous unis dans l'œuvre commune du bonheur, les peuples se sont mis en marche pour la cité heureuse. Et il n'est pas vrai qu'un peuple dont tous les besoins seraient satisfaits, n'ayant plus à lutter pour l'existence, perdrait peu à peu la force de vivre, tomberait bientôt dans la torpeur, dans l'engourdissement final. Le rêve restera toujours sans limite. Il y aura toujours beaucoup d'inconnus à conquérir. À chaque besoin nouveau contenté, le désir en fera succéder un autre, dont la satisfaction exaltera les hommes, fera d'eux des héros de la science et de la beauté. Comme le rêve, le désir est infini. Et si l'on s'est suffisamment battu entre soi pour se voler le bonheur, on luttera tous ensemble pour l'élargir sans cesse, pour en faire un festin immense, resplendissant de joie et de gloire, capable d'assouvir les passions décuplées de plusieurs milliards d'hommes. Et il n'y aura plus que des héros. Et tout enfant, à sa naissance, recevra un cadeau de bienvenue, la terre entière, le ciel sans bornes, le soleil paternel, source de l'immortelle vie.